France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier la première semaine à Matignon de Michel Barnier, qui nous promet un gouvernement dans les prochains jours. Et puis, pour le débat, nous recevrons une philosophe spécialiste des socialismes qui, dans son dernier livre, confronte les valeurs de la gauche à l'hypermodernité incarnée par les géants du numérique et la machine capitalistique néolibérale qui nous enferme et nous empêche de penser un avenir commun. Le livre s'appelle « Marx contre les GAFAM ». Il est édité aux Presses universitaires de France et son auteur, Stéphanie Rosa, sera tout à l'heure notre invitée, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Le peuple d'aujourd'hui, souverain, qui s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. La souveraineté du peuple, ce sont cette exigence et ce combat.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
On vient d'entendre la voix du président de la République, Emmanuel Macron. C'était en milieu de semaine devant le Conseil d'État, au moment où on lui reproche de s'être assis sur le suffrage populaire précisément. Est-ce que, Natacha, vous entendez comme une provocation dans les propos du président de la République ?
L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. La Rochefoucauld. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est quand même absolument
magnifique. On va en dire un peu plus quand même.
Oui. Bien entendu, nous allons développer. Non, je pense qu'il y a énormément de malentendus depuis deux mois sur les résultats de cette élection, énormément de manipulations d'un côté comme de l'autre, et Emmanuel Macron ferait mieux de ne pas en rajouter, parce qu'en effet, ça peut sonner aux oreilles de certains citoyens comme une forme de provocation, et la provocation en période de crise n'est jamais une bonne idée. Qu'il soit parfaitement légitime à nommer un Premier ministre, celui qu'il veut. Enfin, on a glosé tant des temps là-dessus, on ne va pas y revenir. En effet, en revanche, parler de souveraineté du peuple, quand on a tout fait pour que la souveraineté du peuple ne s'exprime pas, que ce soit à travers des élections préparées, dans lesquelles un débat démocratique sain aurait eu lieu, ou que ce soit à l'occasion de certains sujets comme la réforme des retraites, ça pose un problème. Derrière, Michel Barnier peut très bien, sait-on jamais, par miracle, nous surprendre et se souvenir qu'une fois que Emmanuel Macron l'a nommé, il est indéboulonnable de la part du président de la République. Il peut tomber par une motion de censure. Donc il n'a rien à perdre. On peut rêver, on peut se dire que peut-être il va tout à coup s'émanciper des conditions dans lesquelles il a été nommé, qui sont, encore une fois, on l'a dit la semaine dernière, assez scabreuses.
Gilles, j'ai entendu et lu une enquête intéressante des Labs avant-hier, selon laquelle 54% des Français considèrent que ce gouvernement ne les représente pas, ou en tout cas, ils n'acceptent pas l'idée que ce soit Michel Barnier le Premier ministre. Mais surtout, deux tiers des Français souhaitent que Emmanuel Macron laisse gouverner ce gouvernement. Est-ce que c'est un peu étrange ou ça raconte plutôt un rejet du président de la République plutôt que finalement la majorité qui serait aujourd'hui au pouvoir ?
Oui, il y a ce paradoxe que les Français très largement considèrent que les conditions de nomination de Michel Barnier ne sont pas conformes au scrutin du 7 juillet. Et dans le même temps, il n'est plutôt pas mal accueilli.
Oui.
Est-ce qu'il va s'émanciper, pour reprendre la formule de Natacha ? On va voir, la question c'est s'émanciper de qui ? Parce que il doit à la fois s'émanciper peut-être du président, mais surtout du Rassemblement National. Natacha dit, à raison, que constitutionnellement, le président de la République ne peut pas démettre le Premier ministre dans la situation politique actuelle. Mais par rapport aux cohabitations précédentes, la grande différence, et c'est pourquoi ce n'est pas vraiment une cohabitation, c'est que le Premier ministre tient d'abord en raison de l'appui du bloc macroniste. Et donc l'émancipation va nécessairement trouver ses limites. Si on essaye de réfléchir à ce qu'était l'évolution durant ces trois mois des rapports de force politique, ce qui est fascinant, c'est que les perdants de la séquence électorale les Républicains et Renaissance sont les gagnants de la séquence politique. Mmh. Les Républicains, c'est un parti qui a été dépecé jour après jour, de 2017 jusqu'à aujourd'hui, du départ de d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, jusqu'à celui de Rachida Dati, qui a été divisé il y a encore fort peu lorsque son président lui-même a fait scission, et qui a été électoralement relégué d'élection en élection. Et c'est une forme de résurrection miraculeuse que vit ce parti, avec en partie grâce à l'habileté de Laurent Wauquiez, mais je crois que c'est un parti qui doit prendre garde aux illusions de ce que j'appelle la persistance rétinienne, c'est-à-dire le sentiment qu'il est fort aujourd'hui comme il était fort hier, alors que ce n'est pas le cas. Et puis l'autre gagnant, et on vient à la phrase d'Emmanuel Macron, c'est le bloc central. Et peut-être pour dire les choses de manière plus précise, on a une situation compliquée pour les macronistes et peut-être une situation confortée pour Emmanuel Macron. La situation, elle est compliquée pour les macronistes. On voit qu'ils sont déjà divisés pour 2027, peut-être même pour la direction du parti Renaissance, qu'ils sont divisés sur la ligne, qu'ils sont divisés sur la stratégie. Mais Emmanuel Macron, et c'est un des paradoxes de la situation, sort plutôt conforté et de manière inattendue de ce qui s'est passé. Il a été désavoué électoralement deux fois, il a été déconsidéré politiquement avec la dissuasion. Il n'avait qu'une carte, Natacha l'a évoqué, l'article 8 de la Constitution, c'est lui qui nomme le Premier ministre, en interprétant audacieusement la Constitution, en jouant des divisions, des égos, des erreurs. Il a sauvegardé l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? Je termine par là. Il avait deux objectifs. Garder autant qu'il le pouvait le pouvoir, sauvegarder autant qu'il le pouvait son bilan. Et il ne pouvait pas faire les deux. Mmh. Il a sans doute abdiqué une partie, au moins temporairement, du pouvoir, mais pour préserver autant qu'il est possible, le bilan. Et il y aura, de ce point de vue-là, évidemment des inflexions, mais beaucoup de continuité avec le gouvernement de Michel Barnier.
Juste pour défendre les propos du président de la République, si on imagine que dans les semaines, dans les mois qui viennent, le gouvernement Barnier ne tombe pas, ça veut donc dire que c'est un gouvernement qui a la majorité, soit bienveillante, soit vraiment de soutien, de gens qui sont élus par le peuple. Est-ce que c'est pas aussi l'expression de la démocratie et de la souveraineté populaire qu'un gouvernement qui ne tombe pas si c'est le seul à ne pas tomber?
On est entièrement d'accord, et c'est là où le réel peut éventuellement apporter un démenti, notamment au nouveau Front populaire qui s'évertue à crier à l'élection volée. Je rappelle que si le nouveau Front populaire avait la majorité, il aurait la présidence de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas. L'arithmétique est claire. Ils ne sont pas en mesure d'avoir une majorité sans une ouverture que, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, ils n'ont pas voulu opérer. Une fois qu'on a dit cela, on en revient toujours au problème de fond, au-delà des stratégies d'Emmanuel Macron pour préserver son bilan. Mais justement, parlons de souveraineté du peuple. Son bilan est-il conforme à ce que le peuple souverain, ou en tout cas une majorité du peuple souverain, veut? Nous sommes confrontés à une tripartition avec des alliances idéologiques contradictoires au sein de ces trois blocs. Nous avons, et c'est l'enseignement du second tour, deux blocs, le bloc central et le NFP, qui ont fait prévaloir le fait qu'ils ne voulaient pas que le Rassemblement national gouverne. Et nous avons une majorité de Français qui a envoyé ce message. Mmh. Donc, ces deux tiers-là se rejoignent là-dessus. Pour autant, et c'est ce qu'oublie par exemple le nouveau Front populaire, c'est qu'on a deux tiers, à savoir les électeurs du Bloc central et les électeurs du Rassemblement national, qui considèrent, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils considèrent que expliquer que le problème en France, ce sont les violences policières, que ouvrir les frontières, comme le voudrait le nouveau Front populaire, que, par exemple, considérer que la loi de 2004 est une loi islamophobe, tout cela, ça n'est pas leur vision. Donc ces deux tiers-là se rejoignent sur ces sujets-là. Et ensuite, vous avez, et c'était le message des européennes et du premier tour des élections législatives, deux tiers, NFP et Rassemblement national, qui veulent une rupture majeure, notamment dans la politique économique et plus généralement dans le suivi d'un système néolibéral, qui réclament ça avant tout. Comment on concilie ça? C'est ça le sujet, à mon avis, auquel tous les politiques devraient s'atteler pour résoudre la crise que nous vivons.
Gilles, il y a aussi le sujet des jours qui viennent, qui va nous intéresser, c'est la formation du gouvernement. Michel Barnier dit qu'il veut être pluraliste, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, ouvrir la table. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
On peut l'attendre.
On va l'attendre.
On va l'attendre. Non, c'est la semaine prochaine, nous commenterons sans doute, je l'espère pour Michel Barnier, la composition du gouvernement, et donc on verra quel est son périmètre.
Il est déjà dans le dur, là. C'est déjà le premier moment de vérité pour lui.
Ah, il vit aujourd'hui sans doute les moments les plus faciles.
Ah.
Parce qu'il va faire des choix et ça va nécessairement déplaire. Donc on verra quel sera le périmètre, on verra quel sera l'équilibre entre les différentes forces, on verra quelle sera l'ampleur du renouvellement. Donc ça, c'est le très court terme. Ce à quoi vous avez invité, c'est à une réflexion plus prospective. Est-ce que ça tient? Et ça peut tenir. Il est possible que cet attelage, évidemment, ça peut ne pas tenir parce que les contradictions sont très fortes. Mais ça peut tenir au moins pour l'année qui vient, pour une raison en réalité assez simple, c'est que le Rassemblement national peut y trouver son intérêt parce qu'il regagne de la respectabilité et parce qu'il a de l'influence. Donc ça peut tenir. Et si ça tient, je trouve qu'il y a une question prospective intéressante, c'est quels peuvent en être les effets sur le système partisan. Et je crois qu'il y a deux scénarios. Le premier, c'est celui d'une tripartition assumée. Ça serait quelque chose de nouveau dans notre vie politique. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est tombé du côté où il penchait, à droite, et on aurait un système politique avec une gauche ou des gauches, une droite...
C'est déjà plus compliqué que ça, hein.
Ou des droites et une extrême droite. Mais malgré tout, avec trois blocs, une forme de clarification du débat public, mais qui peut avoir des conséquences électorales. S'il y avait des élections législatives en 2025, la logique est que ce bloc de droite, ou ce bloc des droites, se présente ensemble. Les élections municipales de 2026, que beaucoup ont en tête, là aussi, il pourrait y avoir cette fusion entre la droite macroniste et les Républicains. C'est plus compliqué, sans doute, pour 2027, pour l'élection présidentielle, si elle a lieu en 2027, parce que pour le coup, il y a beaucoup d'ambition et qu'il n'y a pas de procédure. Mais en tout cas, il y a ce scénario-là, qui est un scénario possible d'une tripartition assumée et qui serait un élément nouveau avec la clarification, qui n'est pas toujours mauvaise en démocratie.
Le grand face-à-face, le duel.
La croissance a ralenti en Europe depuis de nombreuses années et on l'a trop longtemps ignorée. Tout allait globalement bien, mais maintenant les conditions changent et la Chine nous concurrence partout, sur tous les marchés. L'Europe est un continent dont les valeurs sont la prospérité, l'équité, la liberté, la paix et la démocratie. Ces valeurs sont intimement liées à nos capacités d'investissement. C'est pourquoi l'investissement devient maintenant, pour nous, un défi existentiel.
Un défi existentiel, les mots très forts de Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui a remis un rapport de 400 pages à la Commission européenne, un rapport très alarmiste, qui s'inquiète du décrochage avec les États-Unis et la Chine, et sur, et c'est je crois l'essentiel, la capacité de l'Europe de maintenir son rang, et notamment son modèle démocratique et son modèle social. Il en va, on l'a entendu, hein, selon lui, de la survie de l'Union européenne. Il appelle à un énorme plan d'investissement inédit, 800 milliards d'euros par an pour financer l'innovation, la transition verte et la défense. Gilles, 800 milliards d'euros d'investissement par an, est-ce que l'Europe sort enfin de l'âge de l'innocence et de la naïveté?
C'est un rapport, ce n'est pas une politique publique. C'est le rapport d'un homme...
Une recommandation.
Qui est un homme respecté, qui est un esprit libre, et sur un sujet, majeur. Vous l'avez dit, c'est un gros rapport, hein. Il y a deux parties, 69 pages pour la partie plus synthétique, 328 pages pour la partie plus sectorielle. Je n'ai pas lu la partie sectorielle pour ne rien vous cacher. Peut-être deux choses. Sur le constat que vous avez évoqué, il montre à la fois comment on peut être et comment et pourquoi on peut être heureux en tant qu'Européen d'être dans un continent riche, plus égalitaire, avec des habitants en meilleure santé, plus démocratique, et en même temps, et c'est ce que vous avez dit en reprenant cette formule du défi existentiel, l'inquiétude avec notamment quelque chose à la fois qui concerne le passé et qui concerne l'avenir. Le passé, c'est l'évolution relative de la richesse européenne et de la richesse américaine. Avec ce chiffre qui est très frappant, il y a 20 ans, le PIB de l'Union européenne était 15% inférieur à celui des États-Unis. Il est aujourd'hui, en 20 ans, à peine 30% inférieur. Et donc il y a un vrai déclassement, d'autant que, dans le même temps, la Chine a rattrapé puis dépassé les Européens. Mais, et c'est là où le rapport est vraiment alarmiste, c'est que quand il se projette dans le passé, dans le futur, il dit il y a, pour les 25 prochaines années, le risque d'une longue stagnation. C'est-à-dire que pendant 25 ans, il n'y a pas de croissance. Et ça, ça a des conséquences sociales et sans doute des conséquences démocratiques qui devraient alerter les Européens. Donc ça, c'est le premier point sur le constat. Je laisse peut-être Natacha, on viendra après sur les propositions.
Juste un mot sur le constat, parce que il y a quelque chose qui me semble presque un peu surprenant, voire paradoxal. Prendre comme modèle les États-Unis pour dire que la croissance permet la démocratie et le bien-être des citoyens, je ne crois pas que la démocratie américaine soit en meilleur état que la nôtre, malgré l'enrichissement, et l'espérance de vie aux États-Unis baisse, alors que chez nous, ça va plutôt mieux. Donc, j'ai du mal à voir le lien, mais peut-être on pourra en discuter ensemble, parce que c'est un lien fondamental qui est fait entre croissance, richesse et modèle. Mais il faut financer ce modèle, vous allez me dire ça, Natacha, je pense.
J'allais dire que, premier point, ce sujet, la question du lien entre croissance et démocratie, est un sujet, en effet, qui, moi, m'a immédiatement frappé à la lecture de ce rapport. Parce que on peut évidemment contester certains éléments de cette équation. En effet, la croissance pure n'est pas forcément le seul facteur de démocratie et ce n'est pas forcément le meilleur moyen de calculer, d'évaluer déjà le bien-être, le bonheur des populations. Vous avez cité l'exemple de l'espérance de vie, c'est absolument fondamental. On pourrait en citer d'autres. Il y a donc dans cette vision quelque chose de problématique. Pour autant, ce que révèle ce rapport, quand il parle de cette question de la croissance, me semble essentiel. Absence de progrès de productivité. En effet, c'est un des points essentiels. Pourquoi ? Parce que, historiquement, c'est par l'augmentation de la productivité qu'on arrive à libérer des énergies, du temps, à permettre aux individus de s'épanouir. Ça fait partie, cette augmentation de la productivité du travail, ça fait partie de l'équation qui permet, à un moment donné, de gagner en droit. C'est contestable aussi sur d'autres points, mais bon, premier point. Deuxième point, l'absence d'investissement. Et troisième point, le constat que l'Europe est faible en matières premières et qu'elle manque de matériaux critiques, c'est-à-dire les matériaux qui vont permettre l'indépendance. C'est-à-dire que certes, on peut dire l'Europe se porte mieux que les États-Unis, certes. Mais si l'Europe n'assure pas sa souveraineté, tout simplement, dans l'avenir, sur des éléments fondamentaux que sont les semi-conducteurs, l'énergie, elle va à la catastrophe parce qu'il, certes, la croissance ne définit pas la démocratie, mais il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, c'est-à-dire sans capacité à décider librement de son destin. Ça, c'est le premier élément essentiel de ce rapport, il y en a d'autres.
Gilles, la question de la souveraineté, elle est centrale. C'est une pierre de plus dans le jardin défendu par Natacha depuis des années, mais de l'idée qu'on ne peut pas continuer à penser l'Europe comme un îlot dans un vaste monde dans lequel elle serait un peu le dindon de la farce, quoi.
Alors, je vais terminer par là. Si on essaye de faire le pont entre le rapport et le débat public. Ce que je trouve stimulant, c'est qu'il prend en réalité de front un certain nombre de catégories. Alors, d'abord, les orthodoxes, les frugaux, ceux qui disent réduction des déficits, réduction de la dette, vous l'avez dit, 800 milliards d'euros d'investissement par an. Alors, pas seulement d'investissement public et privé, mais pour l'investissement public, financé par un emprunt commun. Donc là, on voit les Allemands, les Néerlandais, les Scandinaves qui sont pris de front. Mais il n'y a pas que. Il y a les souverainistes, ou en tout cas les souverainistes dans leur version nationale. Parce que, dans son rapport, il explique aussi qu'il faut aller plus loin dans l'intégration européenne, dans le marché unique. C'est vrai sur les capitaux, c'est vrai sur l'énergie, c'est vrai sur la défense.
Bah, ne serait-ce qu'emprunt commun. Vous avez dit le mot commun.
Les libéraux.
En commun.
Prendre front les libéraux aussi. L'idée que c'est dans la phase dans laquelle nous sommes, que la puissance publique a un rôle déterminant à jouer dans les choix d'investissement, les choix de politique industrielle, les cibler sur certains secteurs, on les prend de face. Les communautaristes européens les plus classiques, parce que il dit on ne peut sans doute pas faire ça, tout cela dans l'Europe à 27, il faut qu'il y ait un certain nombre de pays, ceux qui veulent et qui peuvent aller plus vite, qui doivent le faire. Et enfin...
Le retour des fameux cercles concentriques.
Et enfin, les écologistes, ou là aussi une partie des écologistes, parce que le cœur de ce rapport, c'est qu'il est possible d'avoir une croissance décarbonée. Donc c'est intéressant de voir toutes les différentes catégories qu'il prend de front. Je termine...
Juste quand même, prendre toutes les catégories de front, est-ce que c'est pas la certitude que ce plan soit jeté à la poubelle? Parce qu'il y aura très peu de gens pour le défendre.
Alors c'est évidemment le grand risque, c'est quel est le sort de ce rapport, parce qu'on voit l'expérience de ces 10 ou 20 dernières années, c'est que l'Union européenne sait plutôt pas trop mal réagir à chaud aux crises, et plutôt pas très bien réagir à froid. La question, c'est est-ce qu'on est à froid ou à chaud? On peut avoir le sentiment qu'on n'est pas dans une crise aiguë, même si ce que montre Mario Draghi, c'est que nous sommes dans une crise aiguë. Et on peut avoir d'autant plus cette interrogation sur le sort de ce rapport, qu'on est dans un moment dans lequel le moteur franco-allemand tourne, pour dire les choses poliment, au ralenti. Et donc le défi de la nouvelle commission, ça va être d'essayer de mettre en œuvre ce rapport, puisqu'on parlait... Dans le débat précédent d'Emmanuel Macron, il va être moins impliqué sur les questions de politique européenne. Ben, il y a une bonne idée pour lui, c'est qu'il se fasse le porteur de ce rapport auprès de ses collègues européens.
Vous le défendez, vous, ce rapport, Natacha ?
Bien sûr, pour une raison simple. D'abord, accessoirement, qu'il y a...
Attendez, quand même, je dis une chose, vous défendez un rapport qui pousse aussi à plus... d'intégration
mais
européenne.
On peut débattre de certaines choses.
Ça fait deux semaines,
par exemple.
Regardez, ça fait deux semaines que vous nous faites des propos pro-européens, mais on pense contre nous-mêmes ici, c'est très bien.
Mais je n'ai jamais été anti-européenne. J'ai toujours critiqué la construction européenne telle qu'elle se faisait. Et c'est cela la nuance. Quand Gilles parle des souverainistes, j'ai soutenu, avant d'être journaliste, j'ai été candidate aux législatives pour un candidat à la présidentielle, Jean-Pierre Chevènement, qui en 2002 prônait justement les coopérations renforcées au sein de l'Europe et qui s'inquiétait de l'absence de pilotage monétaire et budgétaire de l'Union européenne. Donc on peut critiquer l'Union européenne parce qu'on croit, en effet, qu'il faut que l'Europe, en tant que continent et groupe de pays, défende son indépendance et sa souveraineté, et que ça passe par des éléments très concrets. Et c'est en cela que ce rapport est intéressant, même si on peut ne pas être d'accord avec chaque page de ce rapport, parce que enfin, il y a ce genre de vision, à ceci près qu'il y a un non-dit dans ce rapport. C'est justement la question de savoir comment on en est arrivé à ce que pointe Mario Draghi, à savoir l'absence d'investissement, le ralentissement de la croissance. Parce que il me semble qu'il faut le dire...
C'est pas le but d'un rapport de ce...
Non, justement. Ouais. Et puis parce que là, pour le coup, ça fâcherait beaucoup plus de monde que ceux qu'a cité Gilles. Pourquoi ? Parce que la construction européenne telle qu'elle s'est faite jusqu'à présent, s'est faite dans une concurrence non dite entre les pays européens. Et les pays dits frugaux, ceux qui ne veulent pas de ce rapport, qui expliquent qu'il ne faut surtout pas s'endetter en commun et certainement pas s'endetter encore, sont ceux qui ont refusé les investissements. C'est l'Allemagne qui n'a jamais investi. Pourquoi ? Parce qu'elle profitait de la construction européenne telle qu'elle se faisait, c'est-à-dire qu'elle profitait de son poids pour éviter une forme de protection des industries européennes face aux entrées notamment de panneaux photovoltaïques et autres chinois, parce qu'elle voulait vendre ses berlines. Ce sont les Néerlandais qui, en fait, ont intérêt à une Europe ouverte à tous les vents. Leur économie est fondée sur leur port et l'entrée de produits chinois. Ils touchent 25% des droits de douane directement, et derrière, ils refourguent à tous les autres pays européens en ruinant les industries des autres pays européens. C'est ce genre de mécanisme qu'il faut décrypter pour que ce rapport puisse être utile.
Le grand face-à-face, Le duel.
Allez, troisième sujet du duel entre vous, retour en France avec cette grande enquête de Santé publique France qui met à jour l'explosion de l'obésité et du surpoids dans notre pays. Explication par Jean-David Zetoun, il est épidémiologiste, il répond ici à Victor Delande sur France Inter.
Évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est le sucre dans l'alimentation. Les industriels surchargent de sucre la plupart des produits qu'ils mettent en vente parce que ça rend le goût plus attractif et que ça provoque même une addiction des consommateurs. À cause du sucre, on a plus d'obésité que ce qu'on pourrait avoir. Donc le sucre est un coupable énorme dans ce paysage d'obésité en croissance.
Natacha, un grave problème de santé publique sur lequel vous teniez ce midi à revenir.
Oui, parce que on commence enfin à s'intéresser non seulement aux faits, c'est-à-dire l'augmentation dramatique de l'obésité, du surpoids en France et dans le monde. C'est-à-dire nous avons été longtemps préservés par rapport aux autres pays. On regardait les États-Unis avec un brin de mépris, on regardait le Mexique, le Canada avec un brin de mépris. Nous sommes aujourd'hui touchés. Il faut, les chiffres de ce rapport le montrent. Il y a une augmentation. On est passé de 40 à 48% des hommes se déclarant en surpoids. Alors là, on est à un palier. Alors que pour les femmes, ça continue à augmenter. On est passé de 25% en 96 à 39% en 2017, mais il faut rappeler que c'est en effet une épidémie mondiale. Un être humain sur 8 est touché par l'obésité, et surtout, et c'est là où c'est scandaleux, c'est évidemment 4 fois plus dans les milieux défavorisés. Or, l'extrait que vous avez cité est fondamental. C'est l'industrialisation de l'alimentation qui provoque cette obésité, les produits ultra transformés qui contiennent en effet énormément de sucre. Pour le dire simplement, nous éduquons des générations entières à des goûts mous et doux, c'est-à-dire surtout ne pas trop mâcher, surtout ne pas se confronter à l'acidité et l'amertume, l'amertume qui est le goût le plus complexe, celui de la sagesse. C'est une question d'éducation au goût. On va peut-être aborder légèrement cela avec notre invité parce que,
l'addiction,
évidemment, le rôle de ce triptyque écran, télévision, publicité, grande distribution est fondamental dans cette problématique. Mais la culture alimentaire française est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que la globalisation culturelle touche l'alimentation des Français qui pourtant étaient jusqu'à présent un des éléments de préservation.
Gilles, la globalisation serait responsable de cette épidémie d'obésité dans notre pays.
Alors, c'est marrant, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Natacha, mais je vais prendre le sujet différemment. Alors, si on part des chiffres, on est touché. On est moins touché malgré tout que beaucoup d'autres pays, mais nous sommes touchés. Et il faut s'inquiéter à la fois du niveau, hein, quand c'est pratiquement un homme sur deux qui est en surpoids, 40% des femmes, l'obésité près de 15%, de l'évolution, la progression spectaculaire en l'espace de 10 ans, et évidemment, et surtout de leurs conséquences en termes de santé publique, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité en France et dans le monde. Bon, mais ce qui m'a intéressé, en fait, c'est ce qu'il y avait à la marge de ces chiffres. Parce que, d'une certaine manière, pour le dire de manière un peu provocatrice, ces chiffres sont faux. Ou, en tout cas, ils ne sont pas totalement exacts. Et c'est ça que j'ai voulu creuser. Pourquoi ? Ces enquêtes, depuis 20 ans, c'est des enquêtes sur le surpoids et l'obésité déclarés.
Oui.
On vous demande quelle est votre taille, quel est votre poids, et on calcule votre IMC. Or, il y avait quelques petits points dans le rapport de Santé publique France qui concernaient non pas le surpoids et l'obésité déclarés, mais le surpoids et l'obésité constatés qui ont été mesurés 2 ou 3 fois. Et on voit un biais qui est très intéressant en réalité, parce qu'il y a une sous-estimation globale. Nous nous voyons tous plus grands et plus minces que nous ne le sommes réellement. Et cette sous-estimation globale, elle est encore plus forte, et c'est ça qui est intéressant, certaines catégories. Elle est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Elle est plus forte chez ceux qui sont en surpoids que ceux qui n'y sont pas. Elle est plus forte chez les célibataires que chez les personnes mariées. Et tout ça dit des choses sur notre société, et ça va faire sans doute le pont avec l'essai de Stéphanie Rosa. Parce que ça dit des choses sur notre rapport à la fois une norme esthétique pour plaire il faut être mince. C'est pas une norme esthétique qui est de tout temps, c'est une norme esthétique relativement récente. Alors on peut dire peut-être qu'elle est en train d'évoluer un peu, mais on voit à quel point elle est forte, et aussi une norme idéologique. Et c'est là où on fait le pont avec l'essai de Stéphanie Rosin. Dans une société libérale, une société des individus, l'idée que nous sommes les entrepreneurs de notre propre vie, nous sommes responsables de ce que nous faisons, pèse beaucoup sur le regard sur le surpoids et l'obésité. Alors évidemment qu'il y a une part de responsabilité individuelle dans la manière dont on s'alimente, où on est ou pas sédentaire, mais on sait que la maladie a aussi des facteurs environnementaux, elle a aussi des facteurs génétiques, elle a aussi des facteurs sociaux. Et donc ça, je trouve que c'était intéressant de le souligner. Je prends juste un extrait du livre de Stéphanie Rosa, parce que je l'ai lu après avoir préparé la partie sur l'obésité. Elle met « Depuis l'avènement du capitalisme néolibéral, chaque travailleur des pays riches est incité à gérer sa santé comme on gérerait un capital. La santé est devenue, dans le contexte néolibéral, une abstraction, une norme peu ou prou identique pour tout le monde. » Et je crois que c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes.
Gilles Finkelstein a pris le contrôle de l'émission. Il passe lui-même du duel au débat. On va quand même y aller tranquillement. Place au débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Bonjour Stéphanie Rosa.
Bonjour.
Aucun suspense, c'est donc vous l'invitez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, spécialiste des socialismes, le pluriel est important, et notamment de l'héritage des Lumières et de la Révolution française. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, enseignante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et à l'École normale supérieure de Lyon. Et on peut le dire, vous défendez une gauche humaniste et universaliste, à laquelle vous opposez une gauche radicale qui aurait, selon vous, trahi l'héritage des Lumières. Et dans la lignée de votre travail, vous publiez ces jours-ci un nouvel essai, Marx contre les GAFAM, aux presses universitaires de France, dans lequel vous confrontez le ou les socialismes à la modernité, incarnée par ces fameux GAFAM, ces géants du numérique, qui transforment les relations sociales et professionnelles, enfermant notre liberté et ainsi lançant à la gauche et à ses valeurs un défi immense. Allez, pour entrer dans votre thèse, commençons par un objet emblématique de cette modernité dont on a cette semaine célébré le lancement.
Il a la plus puissante de nos puces pro. Notre système photo le plus avancé. Avec la nouvelle commande de l'appareil photo intuitive et la bordure la plus fine pour notre écran, le plus vaste à ce jour. La nouvelle génération iPhone, c'est maintenant. Voici iPhone 16 Pro.
La grand-messe du nouvel iPhone présenté aux États-Unis. Comment Karl Marx, regarderait-il cela? Est-ce qu'il y verrait le nouvel opium du peuple? Ou un objet aliénant? Ou un objet ou un outil émancipateur?
Je pense qu'il verrait un petit peu les deux. C'est-à-dire que dans le marxisme, c'est la différence avec toutes les pensées décroissantes. On a une vraie attention à ce que le progrès technologique peut apporter en termes de libération de l'humanité à l'égard de tout un tas de contraintes, notamment naturelles. Mais en même temps, comme les innovations technologiques, elles sont pas portées par un désir d'émancipation collective, mais par la recherche du profit maximal, et il y a une dimension aliénante qui est très forte. Et pour reprendre l'idée qu'un marxiste, Henri Lefebvre, donc un marxiste du XXe siècle, a une idée qu'il a portée dans le prolongement des idées de Marx, mais en les adaptant à la société de consommation, plus d'une certaine manière les moyens de libération croissent, plus l'aliénation croît aussi dialectiquement.
Et c'est un peu le travail que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu Marx, il y a eu Lefebvre, et il y a maintenant vous, et vous essayez d'adopter cette théorie marxiste à la modernité du moment. Il faut quand même me dire, est-ce que Marx aura un iPhone?
Je pense que oui, quand même, mais je peux pas en être sûre. Non, mais ce qui est certain, c'est que je pense que les outils du marxisme sont pas figés, ils sont pas gravés dans le marbre, ils sont pas figés. Il faut y réfléchir, il faut les confronter à l'actualité et aux dernières innovations. Et voilà, c'est pas une bible comme on l'a cru parfois. Donc j'ai essayé de partir de Marx, de puiser aussi dans la tradition du marxisme humaniste, oui, à laquelle appartient Lefebvre et puis Georges Lukács. je leur ai pris quelques concepts aussi. Et je pense que c'est, voilà, il faut en permanence que la théorie évolue, parce que la société capitaliste, elle évolue très vite. Elle est, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, elle est aussi extrêmement résiliente. Elle a des capacités d'adaptation absolument insoupçonnées. Et donc, la critique sociale, elle doit évoluer aussi.
Le marxisme est un humaniste, ça fait partie des choses que vous portez en vous et que vous apportez à la modernité. On va y revenir parce que votre livre porte d'ailleurs davantage sur le travail que sur les GAFAM. On va voir cette question-là. Natacha.
Alors, justement, ce que j'ai trouvé absolument passionnant dans ce livre, c'est qu'il porte sur le travail et sur la consommation. Il rejoint toutes mes obsessions, je vais vous dire pourquoi et je vais vous expliquer cette théorie de l'aliénation, c'est-à-dire l'aliénation pas seulement par le travail mais également par la consommation, et je vais le faire par le biais d'un exemple que j'utilisais avec mes étudiants. Tous les ans, je leur demandais de décrire selon les cinq sens un pain au chocolat, parce qu'ils ont tous goûté un pain au chocolat. Et ça va rejoindre notre discussion sur l'obésité. Systématiquement, mes étudiants étaient incapables d'aller au-delà de 4-5 lignes, hein, des jeunes gens de 18-19 ans, et c'était toujours croustillant, etc. Et ça terminait pour à peu près un tiers des étudiants par la phrase « il a un cœur fondant au chocolat ». C'est-à-dire un slogan publicitaire. Et en fait, il me semblait que cela, et c'est ce que je leur disais, que c'était la pire aliénation, c'est-à-dire que les sensations qu'ils ressentaient quand ils mangeaient leur étaient dictées par un discours publicitaire qui les incitait. Et je pense que ça illustre votre redéfinition de l'aliénation, ou plutôt des nouvelles formes d'aliénation par la consommation, la publicité.
Oui.
Stéphanie Rosa.
Alors, ça m'étonne pas, parce que c'est l'anecdote que vous racontez, parce qu'effectivement, chez Marx, l'aliénation, ça concerne d'abord l'ouvrier à l'usine, donc dans les conditions du 19e siècle, donc extrêmement dures et tout. Et puis ensuite.
À la machine, à son patron.
À la machine, au patron, à des horaires de travail dément, à la destruction de son humanité au travail. Et puis, ça devient aussi une aliénation. L'aliénation, elle finit par désigner le rapport que toute la société, elle a à ses propres règles et à ce qu'elle a engendré elle-même, c'est-à-dire que l'aliénation sous le capitalisme, on est tous concernés, c'est le fait de ne plus être en mesure de contrôler les forces qu'on a déchaînées, les forces économiques, les forces sociales. On est mené par ces forces économiques, on se retrouve dans des crises, on se retrouve dans des guerres commerciales, etc. Et plus personne, même pas les capitalistes, ne semble en mesure d'arrêter ce phénomène. Donc ça, c'est le deuxième sens, on va dire, de l'aliénation. Et puis, il y a le troisième, effectivement, qui vient au XXe siècle. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Cette forme d'aliénation, elle est déjà chez Lefebvre, notamment dans sa critique de la vie quotidienne, et chez Lukács, que Lukács appelle aussi la manipulation. Oui. Parce que dans l'exemple que vous avez pris sur la publicité, et ça, c'est un peu la nouveauté du capitalisme du XXe siècle, les capitalistes ne nous aliènent plus d'une certaine manière involontairement en nous imposant des conditions de travail terribles ou en nous imposant une société qui a l'air de marcher toute seule sans intervention consciente des humains, mais ils nous aliènent volontairement à nos désirs de consommation par la publicité. Et aujourd'hui, dans la société un peu encadrée par les GAFAM, cette manipulation, elle a pris des proportions extraordinaires, quoi.
Oui, et c'est ce que vous racontez, notamment sur des pages sur TikTok ou d'autres. Les GAFAM entrent littéralement dans nos cerveaux.
C'est ça. Ils ont inventé à la fin. Enfin, j'ai découvert en préparant le livre que à la fin du XXe siècle, il s'était ouvert à Stanford un laboratoire de technologie persuasive. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment, enfin, c'est de la manipulation tout à fait consciente dans lequel ont été formés les futurs collaborateurs de Mark Zuckerberg. Donc Facebook a été conçu avec ces technologies persuasives qu'on implémente dans les logiciels, dans les ordinateurs, etc., et qui sont là pour nous faire passer le plus de temps possible sur nos écrans, sur les réseaux sociaux, à y laisser le plus d'informations personnelles possibles pour que ces informations soient vendues à des publicitaires, pour qu'ils nous envoient les publicités les plus ciblées, les plus adaptées à ce que nous sommes individuellement, c'est-à-dire en fonction de notre orientation sexuelle, de nos croyances religieuses, de nos préférences, etc., etc. Donc c'est la publicité a atteint un degré de précision et de ciblage qui n'avait jamais été atteinte.
Vous diriez qu'il y a la réalisation absolue de l'utopie capitaliste qui se joue là où peut-être la réalisation de l'utopie socialiste n'a jamais émergé.
Alors, en même temps, le socialisme, enfin, j'essaye, même si c'est pas facile d'avoir une position nuancée, parce que le capitalisme s'est aussi adapté sous la pression du mouvement socialiste et du mouvement ouvrier au 19e et 20e siècle. On n'est plus des ouvriers à l'usine du 19e siècle qui mouraient à 25 ans dans d'horribles souffrances. Donc le capitalisme, c'est pas que cette espèce d'énorme machine monstrueuse qui nous aliène.
Qui broie de plus en plus.
Voilà. Mmh. Il nous manipule, certes, mais il a été capable, et ça c'est un défi pour le socialisme, il a été capable de répondre à ses exigences, de céder à la pression pour survivre, et il a bien survécu. Il faut tenir compte de ça.
Et de nous apporter le confort. Mmh. Gilles.
Votre livre a pour titre « Marx contre les GAFA », mais quand on ouvre un livre, avant de le lire, on projette ce dont il va parler. Et donc, parce que c'était vous, parce qu'il y avait ce titre, je pensais que c'était un livre sur la gauche et Internet. Bon, et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, j'aurais dû lire plus attentivement le sous-titre. C'est un livre beaucoup sur le travail, mais pas seulement sur le travail. C'est ce en quoi il est intéressant. C'est un livre très panoramique qui parle à la fois du travail, des plateformes, de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, on l'entend déjà en vous entendant. C'est un livre qui est à la fois engagé et nuancé. Et donc, c'est vraiment un travail qui est intéressant. Au cœur de ce livre, il y a le concept d'aliénation. Et donc, j'aimerais quand même que vous le développiez. À la fois dans le travail, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a un déplacement de la ligne de l'aliénation qui serait aujourd'hui une distorsion du rapport au réel dans le travailleur, pour les travailleurs des plateformes, est-ce qu'il y a une forme spécifique d'aliénation? Je pense par exemple au développement que vous faites sur le micro-travail, qui sont très très intéressantes. Et puis pour terminer sur cette question d'aliénation, hors du travail, dans notre vie quotidienne, dans notre temps libre, dans la consommation, dans notre relation aux autres, comment elle se manifeste, cette aliénation?
Juste une petite question, Gilles. Quand vous parlez de salariés des plateformes, vous voulez dire quoi? Parce qu'on est tous aujourd'hui des salariés des plateformes. On a nos téléphones, on travaille avec ça, etc.
Oui.
Alors, on est aux salariés de chez Apple, de chez...
Oui.
D'accord.
Alors,
Stéphanie Rosa.
En fait, jusqu'à une date assez récente, l'aliénation, elle avait une forme contraignante assez visible. C'est-à-dire que les ouvriers à l'usine, on n'avait pas besoin de leur faire un dessin pour leur expliquer qu'ils souffraient au travail, qu'ils y perdaient une grande partie de leur énergie vitale, qu'ils y gâchaient leur vie, etc. Et ça a duré jusque dans les années 60-70, à l'usine, la dimension contraignante, ou même dans les rapports de travail, même dans les bureaux, la dimension contraignante, elle était assez claire. Assez constatable par tous. La nouveauté de l'aliénation contemporaine, qui a commencé avec la société de consommation, mais qui s'est déplacée y compris sur les lieux de travail, c'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur le travail à l'ère néolibérale, c'est que maintenant, elle se prévaut de notre consentement, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le capitalisme n'a pas seulement intégré la critique sociale, c'est-à-dire la critique socialiste, il faut améliorer les conditions de travail, il faut un droit à la retraite, à la santé, ce que vous voulez. Il a aussi intégré notre demande de plus d'autonomie, de plus d'épanouissement dans notre travail, etc. Et il a instrumentalisé ses désirs pour les faire convenir au rapport de travail contemporain. C'est-à-dire que maintenant, le rapport au travail, il est beaucoup plus individualisé qu'avant. Alors, ça, c'est vrai notamment pour les cadres, hein, mais bon, c'est vrai quand même pour un certain nombre de gens. On individualise les entretiens individuels annuels pour vous demander, alors, qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser comme projet? Quelle est votre productivité personnelle? Quel est votre degré d'implication dans le travail? Donc, on demande aux gens un investissement subjectif qui est beaucoup plus important en leur promettant l'épanouissement. C'est-à-dire que s'ils réussissent au travail, ils seront des êtres humains réussis. Et donc, les travailleurs s'impliquent en général beaucoup plus dans le travail. Ils y mettent beaucoup du leur. Ils investissent personnellement, subjectivement. Ce qui est normal dans une certaine mesure parce que on est des êtres humains et peut-être on en discutera un peu plus tard, mais on a besoin de se réaliser à travers notre travail aussi. Mais là, c'est mis au service d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, quoi.
Alors, pas toujours. J'aimerais avoir votre regard sur une évolution actuelle, très actuelle, du monde du travail. C'est ces PME dans lesquelles les salariés prennent parfois le contrôle de leur entreprise. Exemple, cette semaine, dans une charcuterie en Alsace.
Il y a 4 ans, cette charcuterie est placée en liquidation judiciaire. Pour ne pas perdre leur travail, les salariés ont donc racheté l'usine.
On est tous impliqués, quoi. Alors avant, on avait un grand patron, voilà, on se disait, il gère tout. Et puis nous, on vient tous les matins, on fait notre travail, production, et hop, on rentre sans plus penser à autre chose. Alors que là, même quand on rentre à la maison, on se sent tous patrons, on se sent tous vraiment responsables.
On est vraiment dans vos sujets, là. Mais c'est pas du numérique. C'est qu'il y a la possibilité aussi de ce chemin-là qui existe.
Oui, puis là, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait désirable, c'est la démocratisation de l'outil de travail, des fins du travail, des méthodes de travail. C'est-à-dire que maintenant, c'est les gens qui travaillent dans la charcuterie qui se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent faire, ouais. Comment, pourquoi, quand. Donc c'est tout à fait, désirable pour moi.
Et c'est une dynamique, mais c'est une dynamique parallèle, mais qui est vous allez me dire qu'elle est microscopique par rapport au rouleau compresseur du numérique.
Ouais.
Natacha.
Oui, sachant que les limites de la coopérative comme alternative au système capitaliste, c'est que parfois, ça réussit tellement bien. Je pense à la coopérative Fagor, qui est une coopérative basque, qui est devenue une multinationale absolument épouvantable et qui a adopté du coup les mêmes pratiques. Alors justement, cette question du rapport au travail et du sens qu'on peut y mettre et du lien avec l'humanisme. Parce qu'il me semble qu'au cœur de votre réflexion, il y a cette idée de ce qu'est un être humain, comment, j'allais dire, il développe l'humanité en lui-même, et donc en quoi le travail ne peut pas être considéré uniquement comme une aliénation, mais aussi comme une des façons d'exprimer et de développer sa propre humanité. Et il me semble que ça vient cogner sur des questions également morales, la façon dont le travail est aujourd'hui orienté par le capitalisme. Je donne un exemple. Un patron de télévision qui expliquait devant une assemblée « Mon problème est que tous les jours, je travaille pour faire en sorte que les gens regardent le plus possible la télévision et quand je rentre chez moi, je fais en sorte que mes enfants regardent le moins possible la télévision. » Je résume, mais de même que quand un paysan qui fait des ports industriels garde un port élevé artisanalement pour lui-même et sa famille. Voilà, ce genre de... Est-ce que ça illustre, on va dire, la souffrance que peut créer le fait de travailler de façon totalement décorrélée d'un sens et d'une morale?
Stéphanie
Rose. Oui, il y a une idée dans le marxisme humaniste sur laquelle ils insistent et que moi je trouve très très important, c'est qu'on... Il y a une essence humaine. Alors, je sais que c'est pas très à la mode de dire des choses comme ça, mais oui, il y a des besoins.
Tout n'est pas l'existence.
Oui, non, mais il y a des besoins fondamentaux qui sont en chacun de nous et auxquels il faut faire droit. Sinon, on est aliéné au sens où on est dépossédé. C'est un synonyme de l'aliénation. On est dépossédé de quelque chose d'essentiel. Et dans le marxisme, enfin, chez Marx déjà, il y a l'idée que le travail est humanisant. Alors, il est humanisant à l'échelle collective, c'est-à-dire que c'est le travail qui nous a permis de sortir du règne animal. On aménage notre milieu en fonction pour satisfaire nos besoins. On produit une culture qui nous est propre et qui est l'autocréation de l'homme par lui-même à l'échelle collective. Et à l'échelle individuelle, le travailleur, enfin l'être humain, se réalise par son travail dans certaines conditions, bien sûr, quand le travail n'est pas aliéné.
Ça, c'est intéressant, le travail humanisant dans le marxisme humaniste. Ça me rappelle ce débat d'il y a quelques mois, voire peut-être un an, je ne sais plus exactement, qui avait traversé la gauche, vous vous souvenez, entre une gauche qui défendait le droit à la paresse et une gauche qui se disait le parti du travail. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une gauche, peut-être plus radicale, qui n'a pas bien lu Marx, selon vous ?
Alors, je ne sais pas s'ils ont lu Marx. On peut en douter. On peut en douter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça recoupe des débats qui étaient déjà à la fin du 19e siècle. Le gendre de Marx, Paul Lafargue, il avait écrit un pamphlet célèbre qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Mais certains à gauche aujourd'hui reprennent ce pamphlet comme une espèce de bible.
De label marxiste.
Oui, voilà. Mais bon, c'est un pamphlet. Ça n'est pas un ouvrage théorique de fond. Et quand on lit, chez les marxistes, le travail y garde une place centrale. Alors, par contre, la question, c'est qu'est-ce qui relève du travail et qu'est-ce qui relève de l'activité libre ? Et parce que chez Marx, il y a une hésitation qui est assez importante parce qu'elle est toujours active pour nous. Il y a le travail, la satisfaction des besoins matériels nécessaires, etc., que Marx voudrait réduire au minimum dans une société socialiste. C'est-à-dire que il y aurait une coopération de l'humanité pour réduire ce travail nécessaire au moins possible et consacrer le reste à Alors justement, c'est ça la question. Est-ce que c'est une activité libre, les activités artistiques, les activités d'expression, voilà, d'auto-expression sous toutes ces formes, ou est-ce que c'est du travail sous une autre forme, du travail libre ? Et donc il y a une hésitation dans le marxisme. Est-ce qu'il faut libérer le travail ou se libérer du travail ? Et voilà, la question n'est pas réglée. Ça explique en partie. Alors sans que tout le monde ait lu Marx, mais ça explique en partie les hésitations aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que on peut se réaliser dans une activité entièrement libre, sans plus aucun rapport avec l'utilité sociale, ou pas ?
Hyper intéressant. Gilles ?
Dans la tradition marxiste, vous centrez votre analyse, vous dites dès le début, sur l'infrastructure, c'est-à-dire sur les relations économiques et sociales, et notamment sur la question du travail, décrivez les évolutions. Vous dites aussi qu'il y a eu une évolution très importante du rapport au travail et une réduction du temps de travail. La question que je voudrais vous poser, parce qu'elle interroge le cœur même de votre étude, c'est est-ce que vous pensez que le travail conserve une place toujours aussi centrale dans la constitution des identités de chacun ?
Stéphanie Rosa.
Parce que, il y a un débat autour de ça.
Et moi, je pense que, il y a un certain nombre, parmi les besoins fondamentaux de l'être humain, effectivement, il y a le besoin, pourquoi le travail est important, parce que c'est une manière, nous dit Marx, de s'exprimer, mais au sens fort, c'est-à-dire de donner quelque chose de soi au monde, d'inscrire quelque chose de soi dans le monde, mais quelque chose qui n'est pas la première réaction spontanée qu'on pourrait avoir, ou l'espèce de gribouillis qu'un enfant pourrait faire, mais qui est quelque chose de travaillé par la culture. On s'éduque en apprenant à faire un travail. On s'éduque, on va vers la chose qui convient le mieux à ce qu'on est, avec ses propres caractéristiques et capacités. Et puis le résultat, c'est le travail, c'est-à-dire, pour certains, ce sera un objet artisanal. Pour d'autres, ce sera un théorème mathématique. Pour un cuisinier, ce sera un plat qui sera particulièrement réussi. Et c'est la manière dont les êtres humains s'inscrivent dans le monde, inscrivent leur être dans le monde. Et il y a quelque chose de profondément, épanouissant là-dedans, en fait.
Votre langue a fourché, vous avez dit être à la place d'avoir. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être par le travail plutôt qu'avoir simplement un travail ? C'est ça l'humanisme ?
En tout cas, dans une société émancipée, les gens pourraient être par le travail, je pense. Ouais.
Une dernière petite question, Natacha.
Votre livre se clôt sur une question fondamentale, celle de la démocratie. C'est par la démocratisation, dites-vous, qu'on peut répondre. Est-ce que, pour autant, la forme d'aliénation moderne par la consommation ne détruit pas les conditions même de la démocratie, c'est-à-dire les individus autonomes, responsables, doués de libre arbitre?
Ouais, tout à fait. Rosa. Il y a un autre besoin fondamental, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Mais
vous avez le temps, allez-y.
C'est le fait de construire le monde avec les autres. Et ça, ça passe par la démocratie. C'est-à-dire que il faut que le monde de l'homme lui apparaisse comme son œuvre, mais pas seulement son œuvre d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Et ça n'est possible que dans des relations égalitaires, rationnelles, de prise de décision collective, voilà, les uns avec les autres. Et donc, effectivement, la démocratisation, tout à l'heure avec l'exemple de la charcuterie, il y a une forme de démocratie dans le travail, dans cette coopérative. Et c'est un modèle qu'on aimerait, en tout cas, en ce qui me concerne, voir se généraliser dans la société. Et c'est sûr que les êtres qu'on fabrique, qui passent des heures sur leur smartphone, dont les désirs sont vraiment canalisés vers la consommation, vers le paraître, qui se traitent les uns les autres aussi comme des marchandises. Enfin, je parle un peu des sites de rencontres dans le livre. C'est des supermarchés, les sites de rencontres. Ces êtres-là, ils sont coupés de tout cela, d'un travail épanouissant peut-être, et de la démocratie certainement.
Merci beaucoup, et je dis à mes enfants qui écoutent peut-être l'émission que George Lucas n'a rien à voir avec Star Wars. Merci Stéphanie Rosa d'avoir été avec nous, c'était vraiment très 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 intéressant. Votre livre Marx contre les GAFAM est disponible aux éditions des Presses universitaires de France. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatt, comme chaque semaine pour la préparation de l'émission, Marie Merrier pour sa réalisation. Aujourd'hui c'est Ronan Mahé qui était à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France, et j'ajoute sur cette même application notre podcast en 6 épisodes consacré à l'histoire de la démocratie américaine.